Nail Verndoye, l'art de peindre le noir.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Dans sa ville de cœur, il y a la mer, le muezzin et les moutons qui bêlent. Cette ville au nord-ouest de Dakar s'appelle Yoff, prisée pour son sable fin et ses poissons. Même que ce professeur des écoles en SECPA à l'Académie de Versailles, près de Paris, titulaire d'une maîtrise d'histoire contemporaine et d'une maîtrise de droit public, qui publie un bel ouvrage intitulé « Noir entre peinture et histoire », même que lui, Nail, est dans les cartons, en train de faire ses bagages pour s'installer dans ce Sénégal, pays de cœur, pays du père. Lui va dans le sens du 21e siècle. L'histoire du génocide Tutsi aux tirailleurs, la représentation des Noirs en France, la question migratoire, tout ça intéresse Nail Verndoye, venu en sol majeur avec sa petite quarantaine, son sourire métisse et un bout de sa discothèque Motown. Que de commencer sa journée ou son en sol majeur avec ça. Bonjour Nail Verndoye.
Bonjour.
Jackson 5 avec Who's Loving You, avec un Michael Jackson qui a à peine une dizaine d'années, vous craquez.
Ah, complètement, ouais. Je suis fan de Michael, je suis fan de la Motown. Et là, c'est leur premier album et c'est juste incroyable de voir la maturité d'un petit enfant comme ça sur une chanson d'amour, de détresse, et voir comment il est capable de s'en emparer.
Alors avant qu'on ne craque sur vous, dites-nous Nail, ce que veut dire ce prénom ?
Nail, alors je ne sais pas si mes parents l'ont choisi avec cette idée derrière, mais ça voudrait dire celui qui réussit ce qu'il entreprend.
En quelle langue ça veut dire?
Ce sera en arabe.
Vous êtes prêt pour une première curiosité en sol majeur, Naïl?
Parfaitement.
Cái bản đồ của tuổi thơ bạn sẽ được vẽ như thế nào?
Quelle est la carte géographique de votre enfance?
La carte géographique de mon enfance, je pense que c'est la banlieue parisienne. Vraiment, je pense que je suis très ancré dans cette banlieue francilienne et c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui m'a construit avec tout ce métissage sociologique, ethnique et culturel.
Oui, parce que alors vous êtes né en 82, donc à Paris. D'abord, ça commence dans le 15e, puis ensuite Colombes, Argenteuil, Sartrouville, je crois. Et je crois aussi savoir qu'il y a dans votre valise sonore un bruit de téléphone.
Donc c'est un bruit, lorsque j'étais tout petit, j'étais à la cité universitaire Antony, donc de 0 à peut-être 2 ans, et il y avait un seul téléphone par étage, mais dans des couloirs qui font peut-être une centaine de mètres, et je me vois marcher à quatre pattes et aller vers cette sonnerie, et en fait dès que ça sonnait, ma mère ou mon père allait décrocher, ou les voisins, pour appeler l'un des nombreux étudiants internationaux de cette cité universitaire.
Les Libyens,
des
Éthiopiens, des
Sénégalais, c'est un melting pot, comme ça peut l'être encore un peu aujourd'hui.
Cela dit, il y a de la géographie et de l'ailleurs dans votre début de vie.
Oui, c'est ça. Mon père, on va dire génétiquement parlant, il est du Sénégal. Et après, j'ai aussi eu la chance de grandir avec un beau-père qui est du Yémen et une mère française. Donc c'est vrai qu'il y a déjà trois parties du monde qui se sont rencontrées et qui m'ont permis de me construire.
Votre père a quitté le Sénégal pour faire des études de psychologie. Il rencontre votre mère, il tombe amoureux. Il ne se marie pas, mais voilà, vous êtes là. Un mariage mixte, comment ça a été accueilli dans cette France? On est dans la France des années 80 à ce moment-là.
C'était un ouvrier, mon grand-père. Ma grand-mère était
côté français.
Voilà, français, femme au foyer. Mon grand-père travaillait chez Peugeot à Poissy. Donc je pense que déjà, il avait l'habitude de voir des personnes venues des quatre coins du monde.
C'est pas pareil, là, quand même.
Mais c'est pas pareil de l'accueillir dans sa famille. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Alors peut-être, ma mère m'a dit, peut-être au début, dans la présentation, il y a peut-être eu des méfaits. Attention, on ne les connaît pas, peut-être. Mais après. Voilà, mon père aussi était quelqu'un encore d'intelligent, quelqu'un qui a été accueilli. Et puis après, il n'y a vraiment pas eu des difficultés particulières, peut-être des appréhensions. Mais et après, c'est l'amour, c'est le savoir-vivre qui passe au-dessus.
Donc, un père biologique sénégalais, un père adoptif yéménite avec lequel votre mère refait sa vie. Donc, deux papas et combien de couffins culturels?
Sénégalaise plus tard. Parce que c'est moi qui décide après à 17 ans, 18 ans, parce que j'étais animateur, donc j'avais même mis un peu d'argent de côté, donc d'aller au Sénégal par moi-même, et de là de découvrir vraiment la culture et d'y aller et de créer des liens qui sont aujourd'hui encore très très forts avec mes cousins et mes oncles. Pour la culture yéménite, bah oui, forcément, parce qu'on la vivait au quotidien, il y avait des oncles qui venaient.
Mais ça passe par quoi alors, cette culture yéménite?
Ça passe par la religion, par la cuisine qui est assez particulière et qui est encore aujourd'hui ma cuisine préférée, un mix entre l'Inde, l'Arabie, l'Afrique, la corne de l'Afrique.
C'est quoi votre plat préféré du coup?
Alors par contre, mon plat préféré, ça reste le yassa. Ça reste le yassa au Sénégal.
D'accord.
Donc tiens, voilà, yassa, yassa mix. J'aime beaucoup le riz djonjon aussi haïtien. Donc voilà, et j'aime la raclette française donc,
ouais.
Et suisse. Donc il y a vraiment voilà, c'est multiculturel.
Alors votre lien avec le Sénégal, vous le tissez petit à petit, comme vous le disiez, notamment par ce biais familial. Vous allez vous intéresser à l'histoire avec un grand H. Et pour votre maîtrise d'histoire contemporaine, vous choisissez un sujet de mémoire particulier, le génocide des Tutsis, mais si j'ai bien compris, plus précisément autour de la question du négationnisme. Pour l'évoquer, vous souhaitiez entendre la voix du très controversé Charles Onana, docteur en sciences politiques et journaliste, auteur de « Enquête sur un attentat Rwanda, 6 avril 1994 ». Il est au micro d'André Berkoff et il s'interroge sur les auteurs de l'attentat de ce fameux 6 avril au cours duquel les présidents rwandais et burundais perdaient la vie.
Je vais vous dire une chose qu'avait dit le procureur Carla Del Ponte. Elle avait dit, si ce sont les hommes de Paul Kagame, c'est-à-dire l'actuel président du Rwanda, qui ont abattu cet avion, il faudra réécrire toute l'histoire du génocide. C'est le procureur du tribunal pénal international qui le dit.
Ouais.
Donc, quand le juge Bruguière est arrivé et qu'il a été saisi de cette affaire, son objectif était d'abord d'enquêter vers les extrémistes Hutus.
Cette responsabilité, oui.
Voilà, parce qu'il est possible que les extrémistes Hutus aient abattu l'avion de leur président. Bon, ça peut arriver. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a un crime quelque part, on essaye de mettre un cordon de sécurité et on interroge déjà les gens. Si c'est dans une maison, on est quand même d'abord obligé d'interroger les gens de la maison, parce qu'il est possible qu'ils aient commis le crime. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte, par exemple, que celui qui était considéré comme le cerveau du génocide, le colonel Théonès Bagosora, lorsque Bruguière l'interroge, le juge Bruguière lui demande « Mais où étiez-vous le jour de l'attentat ?» Il était en train de prendre un verre avec les casques bleus de l'ONU du Bangladesh qu'il avait invité. Mmh. Alors, pour quelqu'un qui organise un attentat ou un coup d'État, c'est quand même étrange qu'il choisisse ce jour-là pour aller prendre un verre avec les casques bleus.
Naïl Verndeuil, pour En Sol Majeur, votre regard donc sur Charles Onana qui donc met en doute la qualification de génocide et accuse le président rwandais Paul Kagame d'avoir organisé le massacre des Tutsis et des Hutus. Je rappelle que Onana a d'ailleurs été poursuivi en France pour contestation de crimes contre l'humanité.
C'est une des personnes que j'ai découvertes lors de ce Master 1. Donc j'ai vraiment traité le négationnisme, donc j'ai fait des comparaisons avec les autres génocides. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup d'émotions. Déjà, moi, je découvre ce génocide, j'ai 24 ans, enfin, je le découvre, je l'approfondis, c'est quelque chose d'horrible qui s'est passé. Puis entendre des personnes qui, à travers ce que j'avais appelé le paradigme de l'avion, de décliner tout cet attentat et de faire porter la responsabilité du génocide sur ceux qui l'ont subi, je trouve ça, ça m'a vraiment choqué. Après, il y a d'autres théories, des comptabilités macabres. Oui, mais c'est peut-être pas 800 000, c'est peut-être 600. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans tous les génocides.
Dans ce mémoire, vous avez analysé les ressorts de cette pensée négationniste.
Exactement. Et voilà. Donc, et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, c'est intrinsèque au génocide. Il y a toujours le négationnisme, mais dès le début. C'est-à-dire que dès la radio des télévisions des Mille Collines en 1994, le 6 avril, il y avait déjà des gens qui disaient « Non, mais il se passe rien ». C'est pas notre faute, on répond à une agression des Tutsis. Il faut absolument déjà, parce que je pense, et désolé, mais j'ai de l'émotion quand j'en parle, je pense qu'ils sont déjà conscients de que ce qu'ils font, c'est la catastrophe, c'est la Shoah, c'est horrible. Et donc, de cette conscience, ils essaient tout de suite de se déculpabiliser.
Mais pourquoi vous savez pourquoi vous, ça a provoqué cet intérêt? Pourquoi avoir posé vos yeux spécifiquement sur ce génocide des Tutsis?
Alors j'avais déjà des professeurs qui travaillaient beaucoup sur la Shoah et sur l'Arménie, et c'est vrai que c'est des choses qui avaient déjà été bien étudiées. On est en 2004, donc 10 ans après, et il y avait encore rien, et c'était vraiment intéressant de faire un petit travail d'enquête. Et par exemple Charles Onana, ce que j'avais découvert, c'est que sa maison d'édition, il en était même lui-même le propriétaire derrière son deuxième prénom. J'avais l'impression d'être un enquêteur historien, et c'était quelque chose qui me motivait dans mes débuts de recherche.
Et puis après, vous vous êtes intéressé à une autre question, celle des tirailleurs sénégalais. Dans quel sens?
En fait, dès qu'il y avait un exposé à faire de la première à la dernière année d'université, c'est vrai que je prenais un angle, un prisme africain, parce que c'est quelque chose, je pense, qui était peu connu. Déjà, ça surprenait mes enseignants. Moi, ça me faisait plaisir parce que j'apprenais sur le continent africain, que ce soit sur... Je parlais des génocides, le génocide des Herero et des Nama au début du XXe siècle. Et pareil, c'est des choses, j'avais l'impression que mes enseignants, mais vraiment des enseignants pourtant très bons en histoire contemporaine, ne le connaissaient pas. Et à chaque fois, j'avais l'impression d'apporter une petite pierre à l'édifice, aussi à mes compères.
Un édifice qui est presque familial pour vous, là.
Ah
pour
oui,
le coup.
Oui, bien sûr. Oui,
vous savez des choses, d'ailleurs, sur cette question-là, d'un point de vue familial, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période coloniale?
Alors moi, j'ai mon grand-père qui est rentré dans l'armée française, donc mais c'était après la Seconde Guerre mondiale, et qui a fait son service pendant 3 ou 4 ans. Mais il n'est pas parti sur l'Indochine, et il est sorti de l'armée française avant la guerre d'Algérie.
Alors cette question de l'histoire vous intéresse au point, mais je ne sais pas si c'est au point, mais en tout cas vous allez faire votre Master 2, vous le souhaitiez le faire à l'université Chiranta Diop de Dakar.
Ah ouais, parce que de 17 ans à 25 ans, c'est vrai que j'allais tous les étés au Sénégal, j'ai des liens très très forts avec mes cousins, parce que j'ai eu cette adolescence, cette post-adolescence avec eux, et du coup j'avais vraiment envie d'aller avec eux, de vivre avec eux aussi un peu plus longuement. Et puis j'aimais toujours l'histoire.
Et là, c'est plus que vivre, c'est penser.
C'est exactement. Et avoir ce prisme un peu africain sur l'histoire. Parce que je trouve qu'en France, on était très américano-centrés. Que ce soit les historiens comme Pabia, que je respecte par ailleurs pour leurs études. Mais ils allaient beaucoup vers les États-Unis. D'ailleurs, il le dit lui-même, je me suis découvert noir lors d'un voyage aux États-Unis. Et du coup, j'avais vraiment cette volonté d'avoir ce regard africain. Et par exemple, ce qu'apportent aujourd'hui des Africains, notamment Chimamanda, l'auteur nigériane, qui, elle, montre dans un livre Americana son regard d'Africaine, de Nigériane, étudiante, enfin, à travers son roman, sur la société afro-américaine et sur les Africains qui ont migré aux États-Unis.
C'est un renversement de regard.
Complètement. Et c'est ce que j'aime faire, et c'est aussi l'histoire de mon livre, de renverser le regard et de voir à travers les personnages noirs dans les tableaux.
Alors, juste sur Chiranta Diop, malheureusement, cette expérience n'aura pas lieu parce que vous tombez au moment des grèves.
C'est ça, donc en fait, sur 5 mois de cours, de présence en tout cas à l'université Chiranta Diop de Dakar, j'ai eu 0 cours. Ouais. Alors, c'est pas une belle publicité pour l'université, mais après, voilà, c'est des grèves, et puis je peux soutenir de par ailleurs quand on voit les conditions, quand on voyait en tout cas les conditions des étudiants au Sénégal.
C'est dommage parce que vous souhaitiez travailler sur le système scolaire de l'AOF. C'est vraiment dommage. Ça commence par vouloir ressembler aux aînés, la graine de café au cou, jusqu'à la peau, de lézard aux pieds. Ça commence comme ça, de quoi être lunatique et malin.
Ça commence par vouloir ressembler aux aînés, la graine de café au cou, jusqu'à la peau, de lézard aux pieds, au fumé engrainé. Aussi vite qu'on fout le nez dehors, les années passent, on se trouve coincé dans la même galère. Le jour on parle en franc, la nuit on rêve de dollars. À force d'y penser trop fort, nos bras finissent dollars. La vie est précieuse, non pas un film. Chaque frère de perdu nous laisse infirme. Mon entourage formé comme un seul corps. Des hommes de tête aux bras droits, pas de pieds tendres. Paix à nos membres, pénétrés par la lumière. Nos cœurs nous demandent qu'à aimer. Mais dans la vie y'a de la guerre, cette malédiction domine. Beaucoup d'ennemis, parmi eux trop de Tommy. On sent que la rage dans nos abdomens. Caché dans les croissants, moi c'est hors des lieux sort.
Je ne sais hommes de l'eau, on pense et son 92 artisanal.
Homme de l'eau, caché dans les croissants, moi c'est hors des lieux sort.
Je ne sais hommes de l'eau, on pense et son 92 artisanal.
Ils nous laissent même pas le temps de boire un fantasy. On veut des chiffres en hommes pour être dans notre fantasy. Les attaques, les autres soleils se placent. Certains forment des staffs de bandits et vivent de grâce. De chasse tendue, on a brandi les pour affronter les chichis. Qui se la raconte les chichis. Des salopes, des pichines, les hommes clean. On représente aujourd'hui les vrais sortes, le pur produit de l'urbe. Là, les auteurs dits d'interdits qui claquent sur internet. Par intérêt, comme dirait Chacha, un de mes frères Zen. Salaza, Sing, Snorce pour les gros. Les minces, les gros, les victimes et les pros. Hommes de l'ombre, man.
Hommes de l'ombre, cachés dans les croissants. Moi c'est hors des lieux sobres.
Hommes de l'ombre, je ne sais hommes de l'ombre. On pense et son 92 artisanal.
Hommes de l'ombre, cachés dans les croissants. Moi c'est hors des lieux sobres.
Hommes de l'ombre, je ne sais hommes de l'ombre. On pense et son. Si ça marche pas, j'arrête. Écris sur mes pages à la barrette, je viens de dehors. Tout ce que je touche devient de l'or. Épuisé, relou de s'épuiser, pour rien vous comprenez pas ou quoi. J'ai pas que ça à faire au noir. Le voile et tout ça, j'ai lâché, préfère détourner. Mais si t'achètes pas, mais ce que de frère, je devrais retourner. J'ai pas envie, et puis ça me prend la tête, ça me gonfle. Je veux des lingots et puis une pute à côté de moi quand je ronfle. Musée à New York City, quitter les hautes scènes, dispositif, bifton dans l'objectif, fils. 6 millions de dollars ou de francs, je m'en fous pour être franc, tu sais. Du moment que j'ai du cash, monnaie. Et à l'école, ils me disaient de lire, ils voulaient m'enseigner que j'étais libre. Va te faire niquer, toi et tes livres. On se débrouille des négros, des crouilles, des couilles, des embrouilles, et trop de numéros d'écrou. Écoute, on m'a détruit, des portées de gorée. Pendant que les truies font des portées de porc, d'or et d'argent.
Du rap français qui vient du 9-2, quelle atmosphère, avec Lunatique et Mala. Pourquoi ce morceau, Naïm?
J'aime beaucoup le rap déjà, et j'aime beaucoup le rap français. Je trouve que, voilà, encore une fois, par rapport aux États-Unis, on a quelque chose de très bien en France.
Après avoir aimé Tupac.
aussi, mais voilà, on a grandi avec ça, avec le soft power américain. Et puis j'aime bien le titre, le fait que ce soit qu'on parle des hommes de l'ombre et pas à chaque fois on parle des grandes personnalités, des hommes, des femmes puissantes, etc. Alors que je pense qu'il y a énormément de choses qui se font dans l'ombre, voire la plupart des choses, et qu'il y a des grands personnages dans l'ombre, et notamment moi ce que j'ai étudié c'est dans l'ombre des tableaux, des peintures, mais dans l'ombre de l'histoire, il y a des grands personnages qui derrière pilotent un petit peu beaucoup de choses.
Vous êtes un peu un homme de l'ombre hein, vous-même. On vous a laissé en tout cas sur votre mémoire autour de la présence de l'Afrique dans les programmes et les manuels. J'ai cru comprendre qu'à ce moment-là de votre vie, Naïl Verndoye, lentement vous faisiez une petite mise à jour culturelle par rapport à cette Afrique qui vous travaille. Une mise à jour qui est passée notamment par le cinéma de Djibril Diop Mambéty.
Monsieur le maire, bingé fapli.
Qui dey boko way santam rek mu wuyla. Tax moy awana.
Bing dan tukh nak, donc bayyi.
Docteur bi dama ko téré. Wa yow sax. Le feu, monsieur tan. ça quand même défaut le majorité.
De mon dit, monsieur le maire. Dit. Je m'en bouge qu'il faut le colaban y taouma.
Loire le bon.
Xam nga ko dagay mu bëgg wéccé sama bop at milliards
kokku nak sooy dagay dem police
mu nak judon dañ ko tek bu ñu wuss bu bess tax
draman xana xam noon fi koloban la fi la yandé ko do sen boy woyum yépp sengor ci bopum fi la jaar and ak la reine d'Angleterre sa majesté Elizabeth II ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen buñ doon ay sauvage buñ fi jaar
J comme j'aime pas.
Moi, je crois que les gens qui pensent que quand on parle de questions raciales ou de questions de genre, on les importe des États-Unis sont des gens qui ne connaissent pas la culture politique de la France. L'essence des gender studies, c'est on ne naît pas femme, on le devient. C'est de dire que le genre est une construction sociale. Et qui a dit ça, c'est Simone de Beauvoir. Un intellectuel français comme Frantz Fanon, qui est un des intellectuels les plus lus au monde, c'est lui qui a inspiré en fait les mouvements noirs américains. Mais c'est un Français. Les questions raciales en France ne sont pas récentes. Peu de gens le savent, mais en 1777, en France, il y avait une police des Noirs. Un décret royal a formé une police des Noirs en 1777. Donc ça veut dire que non seulement il y avait des Noirs en France, mais qu'en plus, on avait créé un droit spécifique pour régenter leur circulation en France hexagonale.
Rokhaya Diallo, j'aime pas.
Moi, j'aime tout le monde.
Non, j'aime. Wow.
Non, c'est vrai, non, mais j'aime bien. Enfin, je trouve qu'il y a besoin de nouveautés, il y a besoin de réflexion et que ça soit... Même s'il y a des extrêmes des deux côtés, je pense que c'est ce qui permet d'avoir un centre et de vivre sereinement.
Elle est un peu dans l'extrême, vous diriez. Je rappelle, hein, c'est une militante antiraciste qui nous, pour le dire vite, qui ne croit plus à la promesse universaliste.
Je ne sais pas si elle est toujours dans l'extrême. Elle peut l'être parfois, mais pas toujours. Mm-hmm. Parfois, je pense que comme beaucoup d'intellectuels aujourd'hui, elle se balade sur cette ligne horizontale, parfois en disant des propos extrêmes qui peuvent choquer, parfois en disant des propos qui englobent plus.
Ouais. Vous prenez pas vraiment parti. Pour vous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une désinhibition de la parole.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis contre la censure, en fait. Je veux que tout le monde puisse parler, puisse dire les choses et qu'on arrive à vivre en commun. Moi, c'est vraiment mon objectif, c'est qu'on arrive à vivre en commun. Et je pense que en étirant un peu la corde ou l'élastique de chaque côté, on va trouver vraiment notre milieu et notre France d'aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a besoin de renouvellement aussi en France.
Le cinéma d'auteur africain.
Ah, j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de le découvrir lorsque j'étais gardien de parking pendant 5 ans, pendant mes études. Juste au-dessus, il y avait la médiathèque de Sartrouville.
Ouais.
Et du coup, on n'a rien à faire pendant 20 heures tous les week-ends au parking. Et j'en prêtais des DVD à chaque fois. Mmh. Et puis, à force d'avoir vu tous les blockbusters, j'allais sur le cinéma africain. J'ai été orienté par un documentaliste. Et après, j'en ai vu une centaine, 200, et c'était incroyable.
Et alors, votre regard, par exemple, de français sur le cinéma d'un Djibril Diop Mambété?
Bah c'était, pour moi, c'était encore un renversement du regard, encore une fois, parce que c'est vrai qu'on voyait souvent l'Afrique, mais à travers des documentaires français. Et là, de voir une Afrique qui se vit, qui, entre guillemets, n'en aurait rien à faire de l'Europe, mais vit comme elle vit au quotidien. Et donc, c'est pour moi, c'était encore quelque chose de, voilà, de très fort, je trouve, et très constructif, de dire que le monde, il tourne pas autour de nous. Parce que, encore, pour revenir à la question précédente, on a l'impression que le monde tourne autour de la France, mais c'est pas le cas.
Et en plus, il y a 1000 France. C'est une invitation pour vous à vous approprier vous-même ce que vous avez à vous approprier concernant cette Afrique.
Ah ouais, chaque fois. Bah, chaque film, après maintenant j'aime beaucoup les films asiatiques par exemple aussi, coréens, japonais, etc. Et chaque film nous apporte vraiment quelque chose puisqu'il y a de l'interculturalité, c'est vraiment très important pour moi.
Black Panther ?
Ouais, j'ai bien aimé. Après, c'est encore très américain.
C'est un petit oui, hein. C'est un petit
un
oui.
Un petit oui, mais j'aime tout le monde encore une fois.
c'est pas vrai ça.
Bah, je pense pas avoir d'ennemis. Il y a pas des choses que je déteste en fait. Y a vraiment...
Sans avoir un ennemi, mais vous avez une opinion.
Ouais, mais je sais pas si elle est si tranchée que ça, parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste. C'est-à-dire, je me dis, même si on a pu avoir des propos ou des choses un peu difficiles ou que le film n'est pas extraordinaire, il peut peut-être, c'est pas un Black Panther. Je pense que pour moi, ça me parle moins, mais je pense que ça peut parler à toute une nouvelle génération. Et donc, il a son utilité, ce film.
Ça vous parle moins parce que quoi ? C'est une fabrication, une autre mythologie qui est loin de la représentation que vous souhaitiez de l'Afrique ?
Parce que c'est encore une fois un regard très américain, c'est une vision du pouvoir, de la force, de la domination, etc. Et moi, j'aime pas les histoires de dominant-dominé. Je vois pas l'histoire comme ça. C'est-à-dire, je vois plus l'histoire comme des personnes, des choses, des concepts qui s'imbriquent, qui s'intriguent, qui s'enchevêtrent.
Les dix petits nègres.
Ouais, j'aime bien. Non, j'aime bien. C'est pas mon livre. Je suis pas fan de ce livre, mais je l'ai lu et j'ai apprécié.
La vraie question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce mouvement décolonial qui souhaite déboulonner, débaptiser, rebaptiser?
Bah, encore une fois, je pense qu'il a le mérite d'exister. Moi, j'ai fait beaucoup le parallèle, même l'histoire, mais avec le mouvement de la négritude aussi, où ils ont une volonté de se réapproprier le mot nègre, par exemple. Et je pense que c'était un échec. Mais après, il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées sur la réflexion. Ils ont amené beaucoup de choses qu'on voit a posteriori. Et je pense que le mouvement décolonial, peut-être que bah, déboulonner, ça s'est fait. Je veux dire, ça s'est fait même au 19e siècle, à la place Vendôme, on a déboulonné des statues, etc. Donc, il y a toujours une évolution de la société. Moi, je ne suis pas pour une société figée. Je suis pour qu'on évolue. Après, si c'est les gens qui décident d'aller tout casser, bah, c'est ce qu'on appelle une révolution. Ça s'est fait aussi. Moi, en tant qu'historien, bah, je préférais que l'État aussi peut-être prenne conscience que certaines choses peuvent choquer, notamment dans les territoires ultramarins, et peut-être les mettre dans les musées ou les expliquer. Le travail pédagogique est primordial.
Comme dit Alain Mabankou, hein, en réponse à un certain discours de Dakar, on n'a pas besoin d'entrer dans l'histoire, nous sommes l'histoire. L'histoire de France est aussi cousue de fils noirs. C'est une phrase que vous rappelez au début de votre ouvrage intitulé « Noir entre peinture et histoire » qui a été coécrit avec Grégoire Fauconnier, donc chez Omniscience. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, Naël Verneuil, envie de plonger dans cette histoire de l'art qui se penche donc sur la représentation des noirs dans la peinture européenne entre le 14e et le 20e siècle ?
C'est un peu un hasard, en fait. Moi, j'aimais bien les musées, donc j'y allais très souvent. Et puis un jour, j'étais dans un musée à Rennes et je tombe face à face avec plusieurs tableaux avec des personnages noirs. Je me rapproche du cartel, de la petite notice en dessous du tableau. Il y a marqué Allégorie du printemps, négrillon, esclave. Et puis ça me trotte dans la tête et je me dis, mais c'est bien des personnes. Je veux dire, le peintre s'est bien inspiré de quelqu'un. Il a tiré le portrait de quelqu'un. Qui était-il ? Donc je fais des recherches sur internet, je trouve absolument rien, quelques petites informations mais en anglais du coup. Tout de suite je me suis dit il faut en faire un livre, j'appelle Greg qui est un très bon ami, on a travaillé pendant 4 ans, voilà, on a navigué à vue parce qu'on n'avait pas d'éditeur, donc on a vraiment travaillé de manière passionnée et on a trouvé des histoires mais incroyables. Incroyable.
Alors travailler dans votre cas, ça a été d'abord regarder et en regardant par exemple ce groom soudanais sur son étalon blanc. Ça, c'est une peinture d'un certain Alfred de Dreux, 1810-1860. Vous vous êtes posé une série de questions. Qui est ce noir dans ce tableau? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Et vous vous rendez compte, dans cette enquête, hein, ça, c'est une forme d'enquête aussi, qu'en fait, les grands noms de la peinture européenne ont représenté les noirs. Est-ce que ça a été une surprise pour vous?
Oui, parce que c'est vrai que ce que j'avais vu à Rennes, c'était des peintres que je ne connaissais pas. Et puis au fur et à mesure de mes recherches, déjà on en a recensé plus de 10 000. Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte que tout, 90% des grands peintres ont représenté à un moment de leur histoire un noir. Mais pas parce que c'était une volonté, mais parce qu'en fait, il y avait des noirs en Europe. Et quand on regarde, je sais pas, au Portugal, à Lisbonne, 10% de la population lisboète était noire au début du XVIIe siècle. Et tout ça, tout de suite, ça nous remet en contexte et en considération par rapport à la colonisation, par rapport à l'immigration massive des années post-Seconde Guerre mondiale. Et on se dit, mais il y a toujours eu des Noirs en Europe. Et c'est pour ça qu'on a repris la phrase d'Alain Mabankou, mais on l'a reprise et on a changé d'échelle, on a fait de l'interscalaire. Et on a dit l'Europe, l'histoire de l'Europe est cousue d'un fil noir.
Et quelle évolution vous voyez dans la représentation de ces Noirs ?
Ce qui est assez intéressant, et là on part vraiment du concret, parce que c'est une découverte empirique, c'est qu'au départ... Les Véronèses, par exemple, au début de la Renaissance, ne représentent pas les Noirs avec des traits stéréotypés. Mmh. Mais du tout, ils représentent avec... Alors là, c'est de manière assez similaire, parce qu'ils se représentent, ils en représentent des fois 10 dans un tableau, mais les 10 sont les mêmes. Mais, parce que peut-être qu'il n'avait qu'un modèle, je ne sais pas. Mais même au 16e, 17e, 18e siècle, bah, on représente finalement avec leurs traits, leur visage, et c'est assez réaliste. Et c'est seulement finalement à la fin du 19e et au début du 20e que vont se créer ces clichés, ces stéréotypes qu'on a encore à l'heure actuelle sur les Noirs.
Donc la traite est passée par là et les théories racialistes.
Théories racistes de Gobineau, etc. Ont développé ça. Mais ce qui, moi, m'interroge encore, c'est qu'au début du XXe siècle, ces théories racistes sont combattues et on sait que scientifiquement, il n'y a pas de race. Et pourtant, alors ça ne va plus être forcément dans la peinture, mais plus dans la publicité. Il va y avoir vraiment énormément de clichés qui vont être liés.
Alors, vous avez conçu ce beau livre, Naël Verneuil, avec des peintures, bien sûr. Il faut voir le livre, c'est un beau livre d'art, hein, franchement. Vous l'avez conçu comme un musée imaginaire des Noirs. Et dans votre musée perso à vous, il y a deux œuvres dont vous souhaitiez nous parler en sol majeur. D'abord, il y a un certain Ayuba Souleyman Diallo. Qui est-il ?
Alors, c'est assez incroyable. C'est au début du XVIIe siècle. Il est au Sénégal, proche de la Gambie. Et il va lui-même être propriétaire d'esclaves. Il va vouloir les vendre à des esclavagistes. Alors, à l'époque, il y avait le cours de l'esclave comme une matière première. Et là, c'est assez bas. Donc, il ne les vend pas. Il revient avec eux. Il se fait attraper par une autre ethnie qui l'attrape, qui le déguise en guenille et qui le vende lui-même.
Il est imam.
Il est imam aussi. Il est fils d'imam. Il est fils d'imam à l'époque.
Imam
il,
voilà.
Il est fils d'imam, donc proche de la Gambie. Donc il parle déjà l'arabe, il parle 3-4 langues locales aussi. Et donc il va faire la traversée horrible de l'océan. Il va être esclave en Amérique, il va s'échapper. Il va pouvoir raconter son histoire à quelqu'un qui va lui permettre d'écrire une lettre à son père, de revenir, d'être racheté par un fonds anglais, de revenir au Sénégal et de rejoindre sa famille.
C'est rare, ça n'existe pas, ça, dans
on a 4-5 exemples, ouais. Mais c'est infinitésimal par rapport aux 12 à 15 millions d'Africains qui ont fait cette traversée horrible. Et ce qui est vraiment incroyable aussi, c'est que ça complexifie et ça nuance vraiment l'histoire. Parce que même quand il rentre, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit un fervent défenseur anti-esclavagiste, et pas du tout, il continue sa vie comme avant. Et là, ça montre une phrase qui avait été prononcée à Ouagadougou, je ne vais pas dire par qui, mais qui disait que l'histoire est plus complexe que nos réflexes. J'aime bien cette idée de dire que c'est vraiment... Des fois, on se dit, bah non, si tu as été esclave, tu vas combattre. Bah non, pas forcément.
Alors, il a été peint, ce Ayuba Souleyman Diallo. De quelle manière ? Par un certain William O'Hare de Bath, qui est un peintre et un graveur britannique.
Bah alors, il l'a peint de manière très réaliste. Et il lui a même laissé le choix des vêtements. Donc, il décide de s'habiller lui-même avec ses tenues traditionnelles. Il porte autour du cou des fragments du Coran qu'il a lui-même recopiés. Et il est dans une posture assez noble, hein.
Pourquoi vous vouliez parler d'évoquer ce tableau en particulier ?
Parce que c'est une grande découverte et ça montre les trois continents. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que même là, en 2009, il a été racheté par un fonds qatari, quelque chose comme 800 000 euros. Hein, ouais. Et l'Angleterre a essayé de refaire une souscription pour racheter le tableau, mais ils n'ont pas réussi à le racheter. Mais le Qatar a décidé de le laisser en prêt en Angleterre. Et ça montre vraiment cette circulation là sur quatre continents des personnes, puis après de l'objet artistique.
Alors, la deuxième œuvre concerne un certain Juan de Pareja, qui est peint par le grand peintre espagnol baroque Velázquez. Alors d'abord, qui est ce Juan de Pareja ?
Alors c'était le domestique, ou l'esclave, parce qu'on est dans le sud de l'Espagne, donc la frontière est ténue entre les deux, de Diego Velázquez. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il broyait les couleurs pour lui, il tendait les toiles, etc. Et il peignait, subrepticement, discrètement.
Lui-même, il a exposé, enfin il a fait...
Et en fait, il a fait plusieurs œuvres. Et voilà. D'ailleurs, c'est dans le livre, ce sont les deux seules œuvres où il y a des personnages blancs, mais elles ont été faites par ce peintre. Et ça montre que déjà au XVIIe siècle, ben, tout le monde peut peindre, c'est pas une question de couleur de peau. Lui, il est métisse. Bon, on pense qu'il est métisse en tout cas, mais il peint très très bien. D'ailleurs, certaines toiles de Diego Velázquez, on a des doutes et on se demande si c'est pas Juan de Pareja qui les aurait réalisées.
Alors, comment Velázquez le peint ?
Ben, pareil, il le peint de manière assez conforme à la réalité. Je dis ça parce qu'il y a une toile où il a fait un autoportrait, Juan de Pareja. Il ressemble beaucoup à la peinture de Diego Velázquez. Donc voilà, il est peint aussi comme un homme, pas noble, mais une bonne bourgeoisie
espagnole. Oui, il est habillé, j'ai regardé, il est habillé avec une cape, une collerette en broderie de Flandre. Et puis il a le regard altier, c'est-à-dire que là, on n'a pas la représentation d'un esclave.
Ah non, du tout. Et on en a beaucoup comme ça, et c'est ce qui nous a un petit peu perturbés. Parce que quand on a commencé cet ouvrage, on pensait, et c'est ce que nous disent beaucoup de gens aujourd'hui, qu'on allait travailler sur l'esclavage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de l'art rend justice à l'histoire des Noirs, parce qu'elle l'étire sur beaucoup plus longtemps. Donc on a des peintures du XVIIe siècle, mais qui traitent de sujets antiques. Et on voit finalement que l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, ça a été une petite partie de cette histoire.
Alors je précise juste que cette peinture a été admirée à l'époque, c'est-à-dire en 1649, mais Velázquez a expliqué en fait qu'il avait fait cette peinture un peu comme un simple exercice préparatoire à son fameux tableau, le portrait du pape Innocent X. J'ai regardé les deux tableaux et effectivement, c'est troublant. Mais effectivement, vous n'avez pas que travaillé sur l'esclavage, Neil Verndoy. Dans ce livre, il n'y a pas que les esclaves, il n'y a pas que les domestiques ou les grooms qui ont été peints. Il y a aussi les hommes politiques noirs, beaucoup de députés. Il y a les mercenaires, il y a les noirs de Bonaparte, on ne va pas rentrer en matière. Il y a les morts pour la France. Et puis vous jouez aussi avec notre mythologie contemporaine, c'est-à-dire que vous citez Jean Genet, Kerry James, certains titres de films comme « Devine qui vient dîner ». Une dernière question en sol majeur sur ce livre. Est-ce qu'au terme de ce travail, vous savez définir ce qu'est un noir ?
Alors on l'a fait au début, prolegomène, ça a été vraiment une longue réflexion. Comment on va définir, comment on va choisir qui est noir ? On s'est arrêté sur la définition, être noir, c'est être perçu comme noir par les autres ou se percevoir soi-même comme noir. C'est-à-dire que parfois, on peut dire à quelqu'un, bah, cette personne va dire non, il n'est pas noir, mais lui va se percevoir comme noir. Et nous, on ne va pas se permettre de juger qui est noir ou pas. C'est pour ça qu'on parlait de polémique tout à l'heure quand on dit on va faire des réunions avec des personnes noires. Moi, j'aimerais bien qu'on me définisse à l'entrée qui est noir, qui n'est pas noir. Voilà, ma femme est métisse, mais elle est très, très claire de peau. Et pourtant, sa mère est plus foncée que moi de peau. Donc, comment elle rentre, bah, je trouve ça très complexe.
Prendre racine, ça signifie quoi pour vous?
Ça signifie, je pense, la vie au quotidien. Là, je suis en train de préparer un déménagement et je trouve que je suis très sédentarisé et j'essaie justement d'enlever ces racines un petit peu pour pouvoir être un peu plus mobile.
On va en reparler. Il faut qu'on évoque deux minutes avant ce fameux mot. Le fameux mot de métissage. On va toquer pour ça à la porte de la romancière franco-marocaine Prix Goncourt 2016, vous voyez de qui je parle, Leïla Slimani, qui a son idée sur la question.
Je crois qu'il y a deux façons de voir le métissage, deux façons qui ont l'air de s'opposer, mais qui en fait disent la même chose. Il y a ceux qui voient dans le métissage quelque chose de positif. Il y a une vision candide, gentillette du métissage. Les métis sont toujours beaux. Les métis, c'est des gens qui ont plus que les autres. Et puis, il y a la vision inquiète du métissage. Le métis, c'est l'être double. C'est celui qui va amener avec lui la dissolution des caractères nationaux. C'est finalement un peu le grand remplacement. Avec le métis, il y a toutes nos identités pures qui vont disparaître. Mais finalement, les deux se répondent parce que les deux portent une forme de jugement de valeur sur le métissage. Or, le métissage, ça n'est ni bien ni mal. C'est exactement comme être blanc ou noir. Être blanc ou noir, ça n'est ni bien ni mal. C'est un fait, ça n'est pas une valeur. Et à ceux qui pensent que le métissage est une addition, je dirais que c'est peut-être plutôt une soustraction. Pourquoi c'est une damnation? Pourquoi Édouard Glissant, d'ailleurs Édouard Glissant qui était grand connaisseur de Faulkner et de l'œuvre de Faulkner, pourquoi c'est une damnation? Parce que finalement le métis est condamné à ne pas savoir qui il est. Ce sont toujours les autres qui lui disent qui il est. Par exemple, le personnage intéressant là-dessus, c'est Obama. Obama, c'est un métis. Et Obama a toujours été décrit comme le premier président noir des États-Unis. Le métis, ce sont toujours les autres qui lui assignent sa couleur, son identité, qui disent qui il est.
Alors, Naïl Verndeuil, est-ce que vous êtes beau ou est-ce que vous êtes inquiétant? Quelle est votre perception de votre propre métissage?
Déjà, je vais me contredire un peu Leïla Slimani, parce que c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je ne me considère pas comme un intellectuel. C'est que je trouve que c'est une façon un peu binaire de penser manichéen, c'est beau, c'est noir, c'est blanc, c'est pas blanc. Et là encore, je trouve qu'il manque la nuance, parce que...
Dites-nous alors.
Ça peut être de différentes manières. Je pense qu'il y a autant de façons d'être métisse qu'il y a de métisse déjà. Comment ça se vit? Moi, je ne l'ai pas vécu pareil à différentes période de ma vie aussi.
Quand j'étais petit,
il y a eu des phases. Quand j'étais, je me suis découvert en CM1. On parlait de Pabia qui se découvre noir plus tard. Moi, je me suis découvert en CM1 quand une professeure d'ailleurs qui venait des Antilles me dit mais tu viens d'où? Moi, je savais pas du tout. Moi, j'étais d'Argenteuil, je sais pas. Et elle me dit mais non, mais t'es. Elle m'a dit un peu de manière un peu directe, t'es bête. Et c'est vrai que je suis rentré à la maison et j'ai dit mais moi, je viens d'où en fait? Ça veut dire quoi? Parce que moi, mes parents, ils sont français, même s'ils étaient pas blanc, mais ils ont les nationalités françaises. Et donc, je pense qu'il y a autant de façons d'être métisse qu'il y a de métisse. Et écoute, je sais pas vraiment si on doit le définir. On est tous métisses de quelque chose, même quelqu'un qui aurait pas de métissage. Est-ce que quelqu'un qui serait savoyard avec un grand-parent qui vient de Florence, il est pas métisse aussi? Moi, je sais pas. Je suis pas dans ces définitions conceptualisées, trop intellectualisées, etc.
Donc, je mets à la poubelle ma prochaine question.
Peut-être.
Vous avez la sensation de ne pas choisir, vous, entre votre francité, votre africanité, entre le noir et le blanc qui est en vous?
Je pense que j'ai eu à choisir, ou j'ai choisi, quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire quand j'ai 17 ans, que j'étais animateur, je vais au Sénégal, et à un moment, je me sens sénégalais, je porte le maillot de l'équipe nationale sénégalaise, etc., à Sartrouville. Et puis en grandissant, finalement, on se rend dit, mais j'ai grandi en France, en réalité, je suis français, j'aime les pains au chocolat, et plus que les biscrèmes, les gâteaux sénégalais. Et aujourd'hui, je pense que quand on passe la trentaine, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec tous mes amis qui ont des origines un peu diverses, que passer la trentaine, on se pose plus ces questions et on vit simplement.
Ouais. Mais vous avez, dans cette recherche identitaire, évolué, parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous aimez bien ne pas vous référer aux citations afro-américaines. Ça, c'est une évolution.
Moi, je pense que c'était très tôt, parce que déjà, à la fac, j'étais pas un grand fan des Malcolm X, des Martin Luther King. Ils ont fait un travail incroyable pour leur pays et qui a eu des répercussions sur le monde entier. Mais c'est vrai que j'ai été plus attiré par d'autres figures, des figures africaines, des figures peut-être, je sais pas, européennes ou asiatiques, mais pas forcément afro-américaines. Je sais pas si j'ai été sensibilisé à ça, mais j'ai vraiment eu l'impression que les Américains nous donnaient du soft power tout le temps et on est obligé de vivre avec leur culture, de Arnold et Willie, Eddie Murphy, Will Smith, etc., dont j'étais fan quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'université où, voilà, même à l'université, si un professeur voyait que j'étais noir, il me dit « Ah tiens, tu peux pas faire un travail sur la ségrégation afro-américaine ?» Non, pas forcément, non.
Et alors, c'est quoi votre grande figure africaine que vous admirez ?
Bon, j'aime beaucoup Thomas Sankara. Je pense que c'est quelqu'un d'assez...
C'est assez classique.
Assez classique aussi, ouais. mais je pense que voilà, c'est une belle figure. Et puis, bon, il est 87, il est décédé, mais c'est assez contemporain aussi.
Le 25 juin prochain, c'est-à-dire demain quasiment, vous décollez finalement de Paris pour Dakar avec armes et bagages. Votre arme étant peut-être votre femme, suisse et haïtienne.
Exactement, ouais, ouais. Et bah oui, c'est vrai que c'est un projet que j'avais depuis longtemps, qui ne se concrétisait pas. Et puis là, il se concrétise et de la plus belle des manières, donc je suis très content.
Il se concrétise professionnellement de quelle manière ?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je vais travailler à l'ambassade de France en tant qu'attaché de coopération éducative. Donc on va travailler avec toutes les écoles françaises et homologuées du programme scolaire français, de la coopération internationale sur la formation des enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la coopération internationale, ça se fait vraiment différemment. C'est vraiment de pair à pair. C'est-à-dire que ce n'est pas les Français qui vont aller vendre ou donner des leçons de formation aux enseignants sénégalais, mais ça se fait en échange. Et c'est vraiment des valeurs qui, moi, me parlent beaucoup.
Et vous allez vous mettre au Wolof de façon sérieuse, alors ?
Ouais, je m'y étais mis à l'époque. Déjà, j'avais suivi des cours lorsque j'étais étudiant à Charenta Diop. Ce qui fait que je le comprends un peu, mais il va falloir que vraiment je travaille de manière plus approfondie.
J'ai l'impression que la France se vit comme un pays hyper progressiste alors qu'il est hyper conservateur. Je cite Rokhaya Diallo pour cette question dernière en sol majeur. Je ne sais pas ce que vous diriez de la France véritablement. Je ne vous sens pas dans une colère particulière. Mais au fond, la question c'est, est-ce que vous partez vivre au Sénégal ou est-ce que vous quittez la France ?
Non, je pars vivre au Sénégal. Parce que je travaille toujours à l'ambassade française. Mais je pense que ça fait du bien d'être un peu...
Vous êtes coincé là quand même.
Non, mais je pense que ça fait du bien de la voir de loin un petit peu. Là, on est dans une période en plus préélectorale qui est un peu compliquée. Et on parlait des extrêmes qui tirent. Et là, ça tire énormément. Et on n'a pas envie que l'élastique craque. En même temps, je suis content de ne pas être là pendant cette période préélectorale qui est assez tendue. Et qui est un esprit un peu délétère. Et voilà, c'est vrai que ça ne me parle pas trop en ce moment ce qui se passe. Mais je suis encore une fois assez optimiste et je pense qu'elle peut renaître de ses cendres et se recréer. On parle de mutabilité du service public, c'est-à-dire de s'adapter tout le temps. Je pense qu'elle aura cette capacité, en tout cas je l'espère.
Vous êtes très diplomate. Hein. Merci Naïl Verndeuil et tous nos voeux en sol majeur pour cette aventure vraie, loin du blabla, j'ai envie de dire. Vous êtes les mains dans le cambouis. Et pour faire un petit clin d'œil justement à Madame, on va se quitter avec Ktassi et leur scandale Gouyal. C'est-à-dire que vous dansez le compas à la maison ?
Ouais, j'aime bien. Ouais, non, non.
Là aussi, il faut des cours.
Non, ça va, ça va. Bon, elle est bien meilleure que moi, mais ça va. On arrive à suivre.
parle, tu cours. Cours pas, cours pas.
La danse compas sur RFI, j'ai pas vraiment vu hein, la petite leçon de compas avec vous. Et en sol majeur, émission à réécouter en podcast sur votre application Pure Radio, à retrouver évidemment sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, et puis en direct chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Vous allez voir, ça, c'est délicieux à écouter de Dakar. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine avec le poète Touareg Hawad. À la semaine prochaine.
Danser, vini ba côté, vous nous a bloqué, bloqué.
Dans le cadre de la